VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Nouakchott, 13h à Libreville, bienvenue à notre journal. En Centrafrique, nouvelle allégation d'abus sexuels commis par un employé de l'ONU dans le pays. La mission onusienne sur place, la MINUSCA, a confirmé le fait hier sans donner de détails sur l'incident qui aurait eu lieu dimanche dernier, ni la nationalité du fonctionnaire civil impliqué. L'ONU a ouvert une enquête et informé les autorités locales de cette affaire. RDC, au moins 3 blessés hier, tel est le bilan des heurts signalés pendant une manifestation de l'opposition contre l'intention prêtée au président Joseph Kabila de vouloir se maintenir au pouvoir. Des hommes armés de bâtons ont attaqué des opposants peu après le début de leur rassemblement dans un stade de Kinshasa. Et selon l'agence Reuters, il y a eu des accrochages avant que la police n'intervienne pour séparer les deux camps. Le compte-rendu du député d'opposition Jean-Claude Mvuemba, au micro d'Eddy Sango.
Il y avait au moins plus de 300 policiers qui sont arrivés. Il y a eu des échafaudés, je crois, avec certaines personnes qui n'avaient pas eu le temps de partir de ce site-là où les inciviques du pouvoir sont venus pour faire des ordres au meeting de l'opposition. Justement, après la prise de parole de plusieurs présidents des partis politiques, subitement, il y a eu un mouvement de foule. Comme nous, on était sur l'estrade à la tribune, donc on voyait à peu près de loin, vers l'extrême gauche, il y a eu un mouvement de foule. Il y avait personnes qui s'en venaient vers la foule mais qui avaient des blousons. Ça s'est arrêté pendant, je crois, une ou deux minutes et puis après, c'était rare parce que là, il y a eu deux coups de feu. Alors nous tous, nous avons quitté la tribune pour aller chercher un coin vers la rue. D'après ce que je suis en train d'attendre, il n'y a aucun leader politique de l'opposition congolaise qui a été touché.
Combien y a-t-il eu de blessés? Y a-t-il de morts?
Deux inciviques qui étaient vraiment sévèrement blessés. Mais au niveau des militants des partis politiques de l'opposition, jusqu'à l'instant où je vous parle, je n'ai pas entendu un autre son contraire.
Quel était l'objectif de votre manifestation?
Le premier point, c'était pour dire N.O.N. non à ce que M. Kabila puisse appuyer la Constitution et que le 27 novembre 2016, il doit y avoir les élections présidentielles. Nous avons l'article 64 qui nous octroie le droit et le devoir d'empêcher un clan, une famille, qu'est-ce que j'en sais, un groupe de vouloir réquisitionner le pouvoir de force. C'est pour cela que nous avons brandi la Constitution, rien que la Constitution, parce que vous voyez ce qui s'est en train de se passer. De deux, le message était purement politique par rapport à la CENI. Que la CENI commence à partir du 1er octobre les enrôlements des Congolaises et des Congolais, dès lors que le fichier central du serveur central de la CENI est infecté. Et de trois, c'était un message par rapport à la xénophobie. Nous nous rendons compte que le pouvoir commence à utiliser les Congolaises et les Congolaises pour tenir des propos xénophobes, des propos racistes que nous n'avons plus connus depuis Babel Ouest.
Avez-vous l'impression que les personnes qui ont attaqué le meeting ou la manifestation étaient envoyées ou c'était simplement des gens qui étaient opposés à vos idées?
Ah ben oui, parce qu'il y a un groupe de gens bien identifiés qui sèment la pagaille quand il s'agit des manifestations de l'opposition.
Jean-Claude Mvuemba, leader du mouvement du peuple congolais pour la République. Côté pouvoir, un porte-parole du gouvernement a indiqué à l'agence Reuters que les assaillants étaient probablement des partisans du président Kabila, choqués par la rhétorique injurieuse des dirigeants de l'opposition. Lambert Mende a condamné hier soir à la fois les attaques et les insultes. Au Tchad, la population suit avec attention le procès de Hissène Habré à Dakar, particulièrement à Moundou dans le sud où les forces de l'ex-président tchadien ont semé la terreur au début des années 1980. Le point avec Nelambay Nadji, directeur exécutif du Centre de recherche pour la dignité humaine et l'environnement du Tchad à Moundou, au micro de Timothée Donangmaï.
Dans les rues de Moundou, beaucoup de gens attendent de ce procès-là quelque chose parce que la ville de Moundou, surtout la région du Logone occidental, a été durement frappée lors de Septembre noir. Je fais allusion au malheureux événement de Beni, au temps du Saint-Abré. Les gens pensent qu'avec ce refus de parler-là, est-ce qu'on aboutira à un procès qui fera jaillir la lumière sur les cas de disparus, ou bien les cas de personnes tuées au temps du Saint-Abré. Donc le refus de parler de l'ex-président Saint-Abré.
Vous avez évoqué tantôt les violences dans la région de Moundou, notamment le massacre de Déli. Quelle mémoire ont les habitants de ces tragiques événements?
Pendant ces événements, je crois que beaucoup de Tchadiens, surtout du Logone, ont perdu des proches, des parents, des pères, des cousins. Et donc, je crois que c'est un événement assez douloureux pour la population de ces localités.
Nelembe Nadji, directeur du Centre de recherche pour la dignité humaine à Mundu, dans le sud du Tchad.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Mali, retrait des miliciens de la plateforme pro-gouvernementale de la localité d'Anéfis dans le nord. La mission de l'ONU confirme ce départ et réitère sa détermination de continuer à soutenir le processus de paix. De Gao, notre correspondant Boubacar Touré.
La mission des Nations Unies au Mali, la MINUSMA, se félicite du retrait effectué hier par des éléments de la plateforme d'Anéfis et de ses environs, des lieux qu'ils occupaient depuis des semaines après avoir chassé la CMA de cette région du nord du Mali, très convoitée par les groupes armés. La MINUSMA se dit cependant profondément préoccupée par de nouveaux mouvements de la plateforme, observés cette fois-ci plus au nord en direction d'Aguelhok, ainsi qu'au nord-ouest de Goundam dans la région de Tombouctou. La MINUSMA, dans le même communiqué, condamne toute violation de l'accord de cessez-le-feu et demande à tous les signataires de l'accord de paix au Mali de se retirer immédiatement des positions qu'ils occupent ou qu'ils tentent d'occuper. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, l'UPC, l'Union pour le Progrès et le Changement du candidat à la présidence Zéphirin Diabré, critique le silence de la police et des autorités de la transition sur l'affaire des fraudes de cartes d'électeurs. Scandale qui fait suite à l'aveu par la police qu'elle avait déjà confisqué 5000 fausses cartes d'électeurs à l'approche des présidentielles et législatives du 11 octobre. Bagassikoura a joint à Ouagadougou Ali Sey, directeur adjoint de campagne de l'UPC.
Depuis que cette information ou cette fraude a éclaté, qu'on n'a pas eu de retour d'information, n'est-ce pas, de la police judiciaire. Face à cette situation, nous avions tenu à remonter l'information à la CENI, qui est l'organe central pour ces élections. Nous ne savions pas qu'est-ce qu'elle a entrepris comme démarche. Mais ce qui est clair, notre deuxième inquiétude justement vient de là, parce qu'elle a tenu, ou du moins le président de la CENI est sorti sur la télévision nationale, là où il disait que son fichier est inviolable.
Cela devrait vous rassurer, même, non?
Ben non, ça ne peut pas nous rassurer parce que nous savions que même le fichier central de la NASA, la CIA ou du KGB peut être violé. Et nous nous trouvons hasardeux de croire qu'un dispositif puisse être inviolable.
Ali Sey, directeur adjoint de campagne de l'UPC. L'actualité dans le reste de l'Afrique, au Zimbabwe, le président Robert Mugabe a prononcé par erreur au Parlement le même discours qu'il avait lu le mois dernier devant des députés. Anastasie Tudiesh.
D'après George Charamba, porte-parole du président zimbabwéen, il y a eu une confusion dans les discours et le président a prononcé le mauvais à l'ouverture de la session parlementaire. Selon lui, l'erreur se situe au niveau du secrétariat et des mesures disciplinaires sont envisagées. Robert Mugabe, 91 ans, a relu pendant 25 minutes le même texte qu'il avait déjà prononcé le mois dernier pendant son intervention sur l'état de la nation. Visiblement, il ne s'est aperçu de rien et les députés de l'opposition qui l'avaient chahuté le 25 août sont restés silencieux cette fois-ci. 7 députés de l'opposition avaient reçu des menaces par SMS les mettant en garde contre toute perturbation du discours présidentiel. Pour Aubert Gutu, porte-parole du MDC, c'est la toute dernière preuve que M. Mugabe n'a plus les facultés mentales requises pour diriger le pays et devrait être à la retraite depuis fort longtemps.
Et pour terminer ici aux États-Unis, les candidats à l'investiture du Parti républicain aux prochaines présidentielles se retrouvent ce soir dans un débat télévisé où le milliardaire Donald Trump, qui caracole en tête des sondages dans le camp républicain, devrait être la cible de 10 concurrents de son parti dans la course à la Maison-Blanche. Un nouveau sondage révèle en effet que la moitié de l'électorat républicain préfère Donald Trump et Ben Carson, deux outsiders, au détriment de ténors présumés comme Jeb Bush, frère et fils de précédent président. Les explications du politologue Léonard Wanchekon au micro de Chérubin Dorsil.
C'est quand même extraordinaire. Je crois que c'est jamais vu et c'est un rejet total. Si Jeb Bush n'est pas là et qu'il est complètement hors jeu, alors je ne vois pas qui d'autre peut vraiment défier Trump, je doute. Quoi. Donc il devient de plus en plus possible quoi, qu'il y ait une véritable révolution dans le camp républicain. Oui.
Si vous étiez Donald Trump, quelle serait votre stratégie ce mercredi soir?
Éviter d'insulter, je vais éviter d'attaquer, je vais apparaître plus présidentiel.
Le professeur Léonard Wanchekon de l'Université de Princeton aux États-Unis. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com ou alors sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.